Bonjour et bienvenue dans BOF, BOF, bande originale de film. C'est le Dr Schnock qui vous accueille pour ce nouveau rendez-vous mensuel consacré, vous l'avez compris, aux bandes originales. Des BO extraites de films, de téléfilms, de fiction, mais aussi de feuilletons Schnock ou de séries d'aujourd'hui, de jeux vidéo, de publicités ou de documentaires. L'intention première de BOF, c'est justement de vous faire voyager musicalement d'un genre à l'autre et surtout d'une époque à l'autre en fonction de l'actualité, des opportunités ou de l'air du temps, et même sans fil conducteur évident, juste pour le plaisir d'explorer le monde foisonnant de l'illustration musicale des images. Et pour commencer ce premier numéro, je vous propose un retour sur l'actualité du mois de septembre 2024. Lors de fouilles archéologiques conduites dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, les chercheurs ont découvert une sépulture qui pourrait être celle du poète Joachim du Bellay. Alors Joachim du Bellay, c'est un poète du XVIe siècle, né vers 1522 à Liray, en Anjou, grosso modo entre Nantes et Angers, et qui est mort à Paris le 1er janvier 1560. Du Bellay est le co-créateur avec Ronsard de la Pléiade, un groupement de poètes de l'époque dont le but était de mettre en valeur à travers leurs poèmes et leurs œuvres littéraires la langue française par rapport au latin. Aujourd'hui, 5 siècles après, la Pléiade, c'est devenu le nom d'une collection prestigieuse de productions littéraires majeures, des gros et beaux bouquins édités par Gallimard. Mais revenons à Joachim du Bellay. Le poème le plus célèbre de du Bellay est celui qu'il a écrit en 1558 et qui commence par « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». 450 ans plus tard, ce poème a fait l'objet d'une mise en musique par le chanteur Ridan. Souvenez-vous, c'était en 2007.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liray que le mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je?
Un extrait de Ridan, qui a mis en musique en 2007 le poème du XVIe siècle « Heureux qui comme Ulysse » de Joachim du Bellay. Mais pourquoi donc est-ce que je vous parle d'Heureux qui comme Ulysse dans BOF, me direz-vous? Eh bien c'est parce que « Heureux qui comme Ulysse », c'est aussi le titre d'un film réalisé par Henri Colpi en 1970. Henri Colpi, né en 1921 et mort en 2006, c'est au départ un scénariste et un monteur qui a collaboré aussi bien avec Charlie Chaplin qu'Agnès Varda, Alain René ou Jean Becker. En 1969, Henri Colpi se lance dans la réalisation de son quatrième film, Heureux qui comme Ulysse, qui sortira en 1970. Ce sera le dernier long-métrage de Fernandel. Dans ce film, Fernandel joue le rôle d'Antonin, un ouvrier de ferme provençal auquel son patron demande un jour de conduire à Arles son vieux cheval de travail, Ulysse, pour le donner à un picador afin qu'il l'utilise dans les corridas. Antonin aimerait plutôt racheter son vieux compagnon pour le sauver d'une mort certaine dans l'arène, mais il n'a pas l'argent nécessaire. Alors sans le dire, il décide de conduire le cheval Ulysse non pas à Arles, mais en Camargue pour lui rendre sa liberté, et pour qu'il finisse là-bas sa vie paisiblement.
Comment l'appelez-vous, votre cheval?
Ulysse, un nom romain.
Non, un nom grec.
Grec? Non, romain. Les romains, c'était les gens qui, dans ces temps, habitaient Arles. Arles et Nîmes.
Vous connaissez la route, monsieur?
Un peu, oui. J'en faisais déjà du temps où il n'y a plus de charrettes que de voitures.
Arles, c'est encore loin?
Vous allez à la corrida?
Oui, vous aussi?
Ah, moi non, moi je bifurque. De toute façon, ça commence que demain, alors.
C'est encore à combien?
À 4 petites heures de cheval.
Et en voiture?
En voiture? du train où vous allez, j'ai bien peur que nous y soyons avant vous. Hein. Allez, viens, Ulysse, on double.
Pour la musique de ce film de 1970, Heureux qui comme Ulysse, Henri Colpi a choisi Georges Delerue. Mais ce n'est pas ce qu'on a retenu de la BO. En effet, pour maintenir un fil conducteur musical dans ce film avec Fernandel, Colpi et Delerue ont fait appel à un autre méridional, lui aussi très concerné par le bien-être animal et les paysages de Camargue. Vous l'avez reconnu, c'est Georges Brassens, évidemment. Tout au long du film, petit bout par petit bout, la chanson de Brassens va illustrer la longue marche du paysan et de son vieux cheval vers la Camargue. Pour créer cette chanson emblématique du film « Heureux qui comme Ulysse », Brassens a conservé le premier vers du poème de Dubélé, une petite partie du troisième, et il a construit le reste autour de l'histoire poignante du film.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays et vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Cette chanson du film d'Henri Colpi, Heureux qui comme Ulysse, est devenue depuis une part intégrante du patrimoine Brassens, à tel point qu'elle a souvent été reprise, même hors de son contexte cinématographique, et même en langue étrangère. Exemple avec la brésilienne Karina Iglesias en 2011.
Feliz quem como Ulysses teve uma bela viagem. Feliz quem como Ulysses viu finitas paisagens. E então encontrou, após muito caminhar, a morada.
Puisque nous étions avec Brassens pour Heureux qui comme Ulysse, la chanson de ce film de 1970, restons un peu avec Tonton Georges, mais 54 ans plus tard, pour parler de l'incroyable film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est un film qui a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2024, ainsi qu'une Palme d'Or collective de meilleure comédienne pour toutes les actrices qu'on y croise. Emilia Pérez, c'est un film musical dans lequel Jacques Audiard raconte l'histoire d'une rédemption, celle d'un chef de gang mexicain qui, après avoir changé de sexe clandestinement, fonde en tant que femme une association d'aide aux victimes des cartels. Ce film de Jacques Audiard est lui aussi transgenre, puisque le réalisateur mêle volontairement plusieurs genres de cinéma en un seul. Le drame, le film de gangster, le suspense, le film d'amour, mais aussi la comédie musicale, dont la partition a été confiée à la chanteuse Camille et surtout à son compagnon dans la vie, le compositeur Clément Ducol.
Nous, on est tous au service, y compris Jacques Audiard, au service de son film, quoi, de son œuvre. Il dit qu'il ne connaît pas la musique, c'est quand même un vrai mélomane. C'est quelqu'un qui aime la musique et qui aime la danse. Au départ, on avait ce qu'on appelle un traitement. C'était une sorte de nouvelle de 30 pages à peu près, à partir de laquelle, en fait, il voulait que la musique soit partie prenante de l'écriture du scénario. Donc on lisait ces pages et au fur et à mesure, on lui disait, bah tiens, ça fait chanson. Étant donné qu'on avait choisi de ne pas musiquer les dialogues. Par contre, il y avait des thèmes qui nous semblaient forts dans certains passages, suffisamment forts en tout cas pour accueillir une chanson.
Solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación Disque Pública especialista.
Jacques, à un moment, a voulu faire une sorte de film, non pas muet, mais un film aveugle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'image, mais on avait toute la trame sonore du film. On avait fait quasiment tous les dialogues. Camille a interprété toutes les chanteuses du film, en changeant de voix et tout ça. Et donc, il avait tout son film en audio, pour se rendre compte un petit peu de comment il allait mettre tout ça en scène. Donc là, c'était vraiment la musique, au début, qui avait une énorme marge de liberté. Puis après, évidemment, toute la machine cinéma s'est mise en place. Donc là, à nouveau, c'est la musique qui se met au service de l'image qu'on découvre tous après coup.
Mais où se cache donc la participation de Brassens dans le film Emilia Pérez, me direz-vous? Eh bien, attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est dans la scène finale, où une procession de femmes accompagne la statue d'Emilia Pérez au son d'une fanfare qui reprend la musique de la chanson « Les Passantes » de Georges Brassens, donc. « Les Passantes », en fait, c'est à la base un poème d'Antoine Paul, qui était un officier militaire, notamment pendant la guerre de 14-18. Il est devenu ensuite chef d'entreprise, mais il est toujours resté poète, parallèlement, puisque ce texte « Les Passantes » d'Antoine Paul, donc, est extrait d'un recueil qu'il a fait paraître dès 1918. Brassens découvre ce poème chez un bouquiniste en 1942 et il décide de l'adapter très légèrement afin de le mettre en musique. Une mélodie qu'il mettra presque 30 ans à peaufiner jusqu'à parvenir à un résultat qui lui convienne. Il obtient d'Antoine Paul l'autorisation de le chanter juste avant la mort de ce dernier en 1971. Brassens chante finalement « Les Passantes » pour la première fois à Bobino en 1972. Un extrait du morceau originel.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit.
MDM. Dans le film de 2024 Emilia Pérez, ce morceau Les Passantes, mis en musique par Brassens, est transformé en version fanfare de procession. Les paroles sont en espagnol et en grande partie réadaptées pour se mettre en rapport avec l'histoire du film de Jacques Audiard. Je ne sais pas si le compositeur-arrangeur Clément Ducol a samplé la version fanfare de 2011 qu'avait faite des Passantes la banda municipale de Santiago de Cuba et qu'il y a ajouté ses chœurs de femmes, ou bien si c'est une nouvelle fanfare qu'il a jouée, au Mexique ou ailleurs, bref, en tout cas, le résultat est remarquable. Las Damas que pasan, c'est le titre de ce morceau en espagnol, et il confère une émotion poignante à la scène finale du film Emilia Pérez. Et Las Damas que pasan conclut aussi, à merveille, cette ode cinématographique à toutes les femmes qui luttent, quel que soit leur combat.
Te digo este poema. A la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba sin nunca hablarme.
Como una estrella lejana.
avec cette scène finale d'Emilia Pérez, on était dans le monde des fanfares, eh bien restons-y. Les plus schnocks d'entre vous se souviennent certainement de Striptease, une émission documentaire créée dans les années 80 sur la RTBF, la télévision belge, et qui fut diffusée ensuite sur Canal+, de 87 à 92, puis sur France 3 jusqu'en 2012, et même jusqu'en 2019 sur RMC Story. Pour concevoir le générique de cette émission télé, Striptease, les auteurs font appel à une fanfare de Belgique nommée le Combo Belge. Cette fanfare s'inspire alors d'un vieil air créé en 1970 par une fanfare du Mali, l'orchestre régional de Ségou. Un air intitulé Batoumambé. Chargé de créer le générique de l'émission Striptease en 1985, le Combo Belge adapte donc et réorchestre cette version originale de Batoumambé. Celle-ci devient une marche cuivrée, lancinante et un peu douloureuse, à l'image de cette émission documentaire de portraits de gens du quotidien, souvent paumés ou surréalistes. Générique iconique de l'émission télé Striptease, cette version revisitée de Batoumambé est restée dans les mémoires. Batoumambé, un air devenu culte. C'est pourquoi tout récemment, notre ami et collaborateur de Radio MDM, Digiskull, s'est mis en devoir de réadapter à sa manière et à la sauce électro ce célèbre générique du docu-télé Striptease. Une tentative tout à fait réussie, jugez plutôt. Thank you. après Striptease, et pour terminer ce bof numéro 1, je vous propose de faire un nouveau pont entre la télévision et le cinéma, avec une association inattendue, celle de Fort Boyard et d'Alain Delon. Étonnant, non ? Alain Delon, comme chacun sait, a disparu pendant l'été 2024. Mais en 1967, Alain Delon est à l'affiche du film de Robert Enrico, Les Aventuriers, en compagnie de Lino Ventura, Serge Reggiani et Johanna Chimkous.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet avion ?
Quel avion ?
Ben celui du type de l'aéroclub, là. C'est bien l'avion qui est tombé en mer. Au Congo, non ?
Tu vas pas avaler ça.
Dans ce secteur, il y a un avion avec 1,5 milliard dedans.
Par combien de fonds ? 5000 mètres, peut-être ?
Non, en vue de 7 côtes. Pas plus de 100 mètres. Et toutes les cartes marines sont d'accord là-dessus.
Où ça ?
Là, Kipunji.
Et alors ? Alors c'est tout. Ça vous intéresse pas ?
Qu'est-ce qui nous prouve que t'es vraiment le pilote de l'avion ?
Rien, sauf que je connais l'endroit.
Dans cette histoire de triangle amoureux et de chasse au trésor en Afrique, la scène finale des aventuriers se situe dans un lieu insolite près de chez nous, le Fort Boyard.
Laetitia, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ?
Je vais m'acheter une maison. Tu sais, c'est pas encore une maison. C'est un vieux fort en pleine mer. Mais je vais tout arranger, ça va être formidable. Il y aura la tempête tout autour.
Lors de la sortie du film Les Aventuriers en 1967, le Fort Boyard est complètement inconnu du grand public. C'est une quasi-ruine, difficilement accessible et seulement par la mer. Fort Boyard, c'est un ancien fort militaire construit au début du 19e siècle qui a servi de prison en 1870 et a été désarmé en 1919. Laissé complètement à l'abandon pendant 80 ans, il est finalement vendu par le ministère de la Défense à un particulier en 1962. Ce dernier le vend à son tour en 1988 à la société de jeux télévisés du producteur Jacques Antoine. Celui-ci le cède symboliquement pour 1 franc et pour travaux au département de Charente-Maritime. Une fois réhabilité, Fort Boyard est évidemment devenu le lieu de tournage du jeu télévisé qu'on connaît aujourd'hui. En 1967, donc, Fort Boyard est une ruine quasi inconnue des spectateurs, sauf peut-être ceux de Charente-Maritime, et qui découvre dans le film Les Aventuriers ce splendide décor naturel de cinéma. Pour la bande originale des Aventuriers, Robert Enrico a fait appel à l'un des plus grands compositeurs de cinéma de l'époque, François de Roubaix. On reviendra plus tard en détail dans un prochain bof sur ce compositeur magique du cinéma des années 60-70, disparu accidentellement à 36 ans en 1975. En attendant, et pour terminer, voici le thème du film Les Aventuriers, avec Alain Delon en 1967, par François de Roubaix. Un thème à la fois très emblématique du style de François de Roubaix et aussi des musiques de films de cette époque. Voilà, la balade est terminée pour aujourd'hui. Du 16e siècle de Dubélé à 2024, en passant par les années 60-70, c'était Bof, bande originale de film numéro 1. J'espère que vous avez apprécié ce voyage express à travers toutes ces musiques qui ont servi à magnifier des images très différentes. Bof, bande originale de film, à retrouver aussi en podcast sur www.radio-mdm.fr.